Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Il y aurait en France plus de 2 millions de personnes en burn-out. Si on parle aujourd'hui davantage de l'épuisement professionnel, les signes qui devraient tous nous alerter sont encore trop souvent méconnus ou minimisés. Mon invitée, Isabelle Payot, psychologue clinicienne du travail, fondatrice et dirigeante de La Fabrique à Bonheur, nous explique comment agir en prévention individuellement, mais aussi collectivement, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonjour Isabelle.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu ?
Très bien, merci beaucoup.
Alors, on va parler de burn-out ensemble. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une première définition ? C'est quoi le burn-out ?
Le burn-out, c'est vraiment le bout du bout de l'épuisement professionnel. C'est quand tout l'intérieur, on dit que c'est comme une maison où la façade est toute belle. Et puis, quand tu rentres à l'intérieur, tout est cramé. Donc, c'est vraiment ça. C'est une fatigue psychique et physique intense qui fait que on peut plus du tout travailler, quoi. On peut plus avancer.
Alors les causes d'un burn-out sont généralement multifactorielles et c'est un engrenage assez progressif. Pour comprendre comment cela peut commencer, je t'invite à écouter le témoignage de Conrad qui a 37 ans et qui était interviewé par Welcome to the Jungle. Il nous raconte qu'un jour il s'est effondré devant son ordinateur, il n'arrivait plus à respirer, il tremblait, il suffoquait. Mais avant l'effondrement, son quotidien ça ressemblait à ça.
J'étais un salarié plutôt impliqué, j'avais tendance à ne pas regarder ma montre. On arrive le soir chez soi relativement tard, on grignote quelque chose, on va au lit, et le matin on se lève et puis c'est vite, 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 on repart au travail. Donc finalement je passais très peu de temps à la maison. Ma vie était rythmée pour mon entreprise, pour mon travail. Pendant le week-end, j'étais encore en train de penser à ce que j'avais réalisé, comment j'allais organiser mon lundi pour être prêt pour les deadlines qui arrivaient, la semaine qui arrivait.
Est-ce que c'est assez typique ?
C'est très typique. Les gens qui font des burn-out sont souvent ceux qui sont le plus impliqués dans le travail. C'est vraiment, ils vont mettre toutes leurs ressources. Ils vont jouer leur identité, leur histoire, leur expérience. C'est les bons élèves. Et ils ne prennent pas la mesure du fait que peut-être que c'est impossible ce qu'on leur demande, ou bien ils ne prennent pas suffisamment soin d'eux. Et tout l'espace mental et dédié au travail. Il y a vraiment quelque chose qui se joue très très fort jusqu'à ce qu'il s'écroule, d'une façon ou d'une autre.
Quels sont les signes qui doivent nous alerter, alors à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres ?
D'abord, il y a des tout petits signaux, et souvent c'est ceux-là auxquels on ne fait pas du tout attention. Donc ça va être, je tombe malade régulièrement, j'ai une angine, après j'ai une rhinite, après j'ai un lumbago, après je me suis tordu la cheville, donc la bobologie, on va dire la bobologie. Après, il y a des signaux qui sont une insatisfaction chronique. Ce que je fais n'est jamais assez bien, ce que les autres, non, ça ne va pas non plus. Donc, je ne suis jamais satisfait ou satisfaite de moi. Donc, des troubles de l'humeur. Et puis, se mettre à pleurer pour rien. Mais ce n'est pas pour rien, mais on ne voit pas pourquoi. Donc, c'est tous ces petits signaux. Alors, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est la récurrence et la durée des signaux qui fait qu'on doit s'alerter. Et ceux qui ne font pas attention à ça et qui ne font pas du tout le lien entre ces signaux-là, physiques, émotionnels, comportementaux, et le travail, eh bien, je dirais que ça va leur être resservi en version XXL à un autre moment, où là, ils vont pouvoir arriver à des extrêmes, donc s'effondrer sur son ordinateur, ne plus pouvoir se lever le matin. Donc, des choses qui sont très, très graves où on peut se demander ce qui se passe. Est-ce que la personne fait un AVC ? Ça peut être aussi des crises d'angoisse massive, etc. Mais c'est souvent ceux qui n'ont pas fait attention aux petits signes préalables.
On ne s'est pas écouté et du coup, on continue, ça va tenir.
C'est ça, parce qu'on va banaliser, on va dire, on est dans une société où il ne faut quand même pas trop s'écouter. On ne peut pas dire qu'on ne va pas très bien. On ne peut pas dire qu'on ne se sent pas à l'aise dans son travail parce qu'on se dit, j'ai quand même la chance d'en avoir un. Donc, on va mettre de côté des signes qui sont vraiment avant-coureurs de quelque chose de beaucoup plus dur et qui va être plus long pour se relever. Ça va être très difficile derrière.
Est-ce qu'il y a différentes phases aussi dans le burn-out et notamment aussi une phase de déni où on se dit que ça ne peut pas nous arriver, que ça ira mieux quand on sera en vacances, par exemple ?
Oui, il y a vraiment cette question-là où certains se sentent très fatigués, mais ils vont rationaliser. Donc la rationalisation intellectuelle, c'est vraiment un bon mécanisme de défense. Mais oui, mais là, c'est la saison, on est plus fatigué, on est en fin d'année. À tout moment de l'année, il y a toujours une explication. Je rentre de vacances, alors je me suis relâchée. C'est la fin d'année, c'est Noël, donc je suis plus fatiguée, etc. On va toujours trouver une raison. Donc, il y a un déni qui fait que si on ne réalise pas que cette fatigue, elle ne devrait pas être là aussi intense, si je me réveille d'une nuit de sommeil, je ne dois pas être fatiguée, c'est pas normal. Donc si je rationalise ça, si je le mets de côté, eh bien je vais continuer sur ma route, je vais continuer à m'engager trop fortement dans le travail sans pouvoir prendre soin de moi.
Pour prévenir le burn-out, on va d'abord s'intéresser à ce que l'on peut faire de manière collective, parce que le burn-out n'est pas le résultat d'une défaillance individuelle, c'est souvent le résultat plutôt d'un dysfonctionnement au niveau d'une entreprise, un collectif. Il y a une dimension clé qui est abordée par Marie Peset dans son livre « Je suis debout, bien que blessée », les racines de la souffrance au travail, c'est la reconnaissance, et tu vas me dire ce que cela t'inspire. C'est à l'Institut psychosomatique que j'ai connu Christophe Dejour. Alors, qui d'autre appeler quand la question du travail devient brûlante parce que, même en puisant dans tout ce que j'ai appris, je ne comprends pas ce qui se passe. « Viens me voir », me dit-il lorsque j'évoque ces femmes épuisées par la cadence, la répétitivité et le vide de leurs gestes. Sa théorie sur la place du travail va vite éclairer les zones d'ombre. Mais oui, bien sûr, nous attendons la reconnaissance de ce que nous donnons au travail, corps et âme. Personne ne regarde le travail déqualifié de ces femmes de ménage en milieu industriel. D'ailleurs, Anne-Marie, l'une d'elles, en arrive à venir plus tôt dans ces immeubles anonymes dont elle nettoie les bureaux désertés le soir pour croiser le visage des gens dont elle vide les corbeilles. Ils sont 72, les verres, les couverts, les boîtes en plastique, le café, les tasses. Les gens des bureaux que je ne nettoie, je ne les vois jamais. Des fois, j'arrivais plutôt pour essayer de les voir un peu. Comme ça, je voyais mon patron et avec les filles, on buvait aussi un café ensemble. Bien sûr, nous voulons que notre travail soit utile au monde, beau et bien fait.
Oui, alors bon, Christophe Dejour, ça a été mon prof au CNAM, et Marie Peset aussi, hein, sur la question du care notamment. Donc moi, c'est ma formation théorique, la psychodynamique. Et la question de la reconnaissance, elle est centrale dans le travail, c'est-à-dire que mon travail, il est toujours adressé à quelqu'un. Et si je n'ai pas ce retour, si je suis invisibilisée, c'est une vraie souffrance, puisque dans le travail, je vais mettre tout ce qui me constitue. Je vais mettre mon identité, je vais mettre mon histoire, mon expérience. Et quel que soit le travail que je fais, que ce soit un travail rémunéré, salarié, ou un travail reproductif, hein, donc si je décide d'élever mes enfants à la maison, donc, ou un travail bénévole, je vais m'engager entièrement. On ne peut pas s'engager à moitié dans le travail, on va s'engager pleinement. Et si je n'ai pas de la reconnaissance de ce à quoi je contribue, qui n'est pas forcément une reconnaissance financière, hein, c'est vraiment une reconnaissance, morale, je ne sais pas comment le qualifier autrement. Eh bien, si je n'ai pas cette reconnaissance-là, je vais commencer à souffrir, parce que je ne sais pas si mon travail sert à quelque chose, alors qu'il doit être adressé. Donc, ce que dit Marie Peset là-dedans, c'est que quelle que soit ton activité, que ce soit nettoyer des bureaux ou président de la République, on va dire, je dois pouvoir avoir un retour de mes pairs et aussi plus largement de ceux pour qui je fais ça. Donc, et si je ne l'ai pas, c'est une vraie souffrance. Je vais commencer à me sentir mal, je vais me sentir inutile, mon sentiment d'utilité ne va pas être nourri, et du coup, je vais commencer à souffrir sévèrement. Pas juste de me dire « Oh là là, c'est pas juste, ils ne me reconnaissent pas ». Non, ça vient frapper mon identité. À quoi je sers? Qu'est-ce que je viens faire?
Est-ce que le collectif, du coup, est un des premiers remparts au burn-out?
Oui, c'est absolument le premier rempart. C'est-à-dire que moi, quand j'interviens en entreprise et que je leur enseigne, je les initie aux risques psychosociaux et notamment aussi au burn-out, je dis « Mais vraiment, il faut être des sentinelles les uns pour les autres ». On ne va pas devenir des copains forcément au travail. On n'est pas une bande de chouettes copains. Mais on doit pouvoir s'inquiéter de l'autre. J'ai confiance en lui, il a confiance en moi, je reconnais ses compétences professionnelles. Et tout d'un coup, si je vois quelqu'un que je vois d'habitude bien travailler, qui est plutôt joyeux, qui va bien, tout d'un coup, je le vois changer d'humeur, il laisse des erreurs, etc. Je dois pouvoir m'en inquiéter parce que je sais que quelque chose commence à ne pas aller pour lui sur le terrain du travail. Donc, on doit être vigilant aux autres. Et ce qui fait que si je ne suis pas seule, si on s'inquiète de moi et si moi je m'inquiète des autres, il y a déjà cette force-là du collectif, ou à minima d'une équipe. Et puis d'autre part, si le travail il est pensé, discuté, c'est du travail vivant, je veux dire, et qu'il est discuté avec un vrai solide, alors c'est dans le sens inverse, un vrai collectif solide, solide collectif, c'est plus anglais, eh bien là, je vais me sentir soutenue, je vais être au milieu de mes pairs, je vais avoir de la reconnaissance, on va traverser ensemble peut-être des moments qui seront compliqués, parce que le travail, ce n'est pas toujours joyeux, sympa, chouette. Il y a des moments où on a des défis, on a des challenges, mais on va le faire ensemble. Donc, ça me protège. Je ne suis pas engagée seule sur mes propres ressources dans le travail. Je vais avoir autour de moi des sentinelles et je vais être la sentinelle des autres.
Pour évoluer dans un climat sain, quelles sont les conditions clés selon toi que doit réunir une entreprise pour assurer ce climat de sécurité pour les salariés ?
Alors l'entreprise, elle doit placer un cadre, comme tu viens de le dire, le plus sûr, le plus sécur possible pour ses employés, c'est-à-dire dans lequel il y a des règles. Je connais les règles, je sais lesquelles avec lesquelles je peux jouer. Et puis, je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis en sécurité puisque d'autres prendront le relais. D'autre part, je dois avoir du sens dans mon activité. Si je travaille pour quelque chose qui n'a pas de sens, si on me donne des directives qui sont complètement insensées, et je me dis c'est débile, pourquoi on me fait faire ça, ça va m'atteindre. C'est impossible, je ne vais pas juste dire « oui, très bien, merci chef, je vais m'exécuter ». L'autre chose, c'est éviter ce qu'on appelle la double contrainte. Avance, recule. Fais si, mais ne le fais pas. Donc ça, c'est impossible, ça met vraiment en tension. Un troisième point, c'est la question des valeurs. Si vraiment je suis dans un conflit éthique, on me demande de faire des choses qui sont vraiment contre mes valeurs, je ne vais pas pouvoir tenir. Donc, une entreprise qui va mettre en place quelque chose de sain, c'est des valeurs énoncées, des valeurs appliquées, pas de double contrainte, une communication qui soit saine, directe, et puis aussi de la transparence. Plus c'est transparent, mieux les gens se portent.
Quel rôle peut avoir le manager dans la prévention du burn-out ?
Le manager, il doit déjà prévenir son propre burn-out. Il doit déjà faire attention à lui. Et du coup, il a un rôle, ce rôle de rôle modèle, hein, c'est-à-dire que de s'appliquer ce qu'il va demander à son équipe dans le bon sens. C'est pas dire, moi je bosse jusqu'à 23h, je veux que vous restiez à 23h, hein, ça c'est incohérent. Mais de dire, rentrez chez vous, voilà, c'est bon, là on a moins de travail, allez vous aérer, prenez soin de vous, pourquoi tu restes si tard ? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ? Donc le manager, il est là pour essayer d'identifier les zones qui peuvent être en tension et venir en aide et surtout mettre en place une organisation du travail qui est soutenante et sécurisante. Mais lui-même, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire le manager doit prendre soin de ses collaborateurs et les collaborateurs doivent avoir leur manager à l'œil pour essayer de prévenir en disant « là, on trouve que tu vas un peu trop loin, tu termines tard, on a l'impression que tu nous as envoyé des mails dimanche ». Voilà, on peut l'alerter aussi, ça ne marche pas que dans un sens, hein, la prévention.
Et la prévention individuelle, moi, à mon échelle, pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir le burn-out ? Quels seraient tes conseils clés ?
La première chose, c'est de revoir ses croyances sur le travail. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu étais plus jeune ? Est-ce qu'on t'a dit, faut travailler dur, on lâche pas, tant qu'on n'a pas fini, on s'arrête pas, enfin bon... Ce genre de croyance que de toute façon, c'est pas pour être belle, il faut souffrir, mais c'est pour bien travailler, il faut bien souffrir. Donc ça, déjà, il faut travailler là-dessus. Parce que les croyances, on a baigné dedans et on se les trimballe, même si on n'y croit qu'à moitié. Donc souvent, par loyauté, on va reproduire des schémas. C'est la première chose. La deuxième, c'est d'être capable de se fixer des limites. De fixer des limites aux autres, si on dit tiens, tu reprendras bien ce petit dossier, allez, hein, machin n'est plus là et tout, et de dire moi, c'est pas possible, à moins que tu me dises par quoi je démarre de façon prioritaire. Si je prends ton dossier, je comprends que c'est urgent, moi, je vais laisser de côté les autres, est-ce que c'est OK ? Donc, vraiment d'être très au clair sur sa charge de travail et sur placer ses limites. Et puis, être capable de s'auto-limiter dans le travail, de dire ça y est, je rentre à la maison, je vais couper le téléphone, je ne vais pas regarder mes mails, je vais passer vraiment du temps, même si je me sens coupable de j'ai pas terminé, donc je suis à la maison, mais je pense au travail. Quand je suis au travail, je pense à la maison, etc. Je suis un peu coupée en deux. Non, quand on est à un endroit, on est à un endroit. On peut pas être à l'autre, on n'a pas encore ce don d'ubiquité. Donc vraiment d'être capable de se dire là, je vais un peu trop loin. Je sens que je travaille trop. Je sens que le travail m'envahit. J'y pense, bah, comme dans ce témoignage, j'y pense même le week-end, j'y pense le soir, j'y pense le matin, j'y pense tout le temps. C'est pas sain. Donc, c'est vraiment d'être capable de se placer ses limites. Et si on ne sait pas le faire, eh bien, si on a un conjoint, de demander à son conjoint de dire « Dis-moi quand tu vois que je vais trop loin. »
Et pour prévenir la rechute du burn-out, qu'est-ce qui est important quand, notamment, on veut reprendre le travail après un arrêt ?
Quand on a fait un burn-out, et bon, le burn-out, il faut comprendre que... voilà, moi, j'entends certains qui disent « Oh, la semaine dernière, j'étais en burn-out ». Non, la semaine dernière, tu étais fatiguée, tu n'étais pas en burn-out, sinon tu ne serais pas là en train de me le dire. Donc, quand on est vraiment en burn-out, l'arrêt, il va être d'au moins 3 mois. Moi, j'ai des patients qui ont été arrêtés 18 mois. Hein, et la reprise, c'était une reprise en mi-temps thérapeutique. On y retourne, pas dans les mêmes conditions. Voilà, parce qu'il y a aussi, il peut y avoir du stress post-traumatique, etc. Donc, pour prévenir, il a fallu d'abord être accompagné en amont pendant tout ce temps de détricoter ce qui est à moi, ce qui est au travail. Parce que c'est un peu un mélange des deux. Moi, je me suis engagée pleinement dans le travail. Pourquoi ? Mais le travail, l'organisation du travail ne m'a pas permis de ne pas tomber dans le burn-out. Donc, qu'est-ce qui est à moi ? Qu'est-ce qui n'est pas à moi ? Et puis, quand on a bien détricoté tout ça et qu'on sent qu'on va être capable d'y retourner, de toute façon, il faudra une visite de la médecine du travail qui va dire oui, vous reprenez. En général, on reprend à mi-temps, enfin, ou à temps partiel, de manière à retourner en douceur pour ne pas recommencer à remettre en place ces automatismes. Mais de toute façon, pour prévenir une rechute, il aura fallu faire le bilan sur sa vie professionnelle, qu'est-ce qui se joue de moi là-dedans, pourquoi j'ai mis tant d'importance, pourquoi je suis allée si loin sans me protéger, parce que ça peut aller vraiment très, 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 très loin. Donc, qu'est-ce qui fait que je me suis engagée si loin ? Et ensuite, décider, parfois certains retournent dans leur ancien job et ils sont entendus, c'est aménagé, tout va bien. Mais pour d'autres, le burn-out, c'est vraiment la prise de conscience qu'ils doivent aller ailleurs.
On va aller un petit peu dans le futur maintenant. En 2050, selon toi, la question du burn-out, elle sera comment ?
J'espère. Alors, parfois, je suis plutôt d'un caractère très optimiste. Hein, donc, en général, je me dis, elle sera réglée. C'est génial. Et puis, par moments, quand je vois différents dossiers comme le travail des femmes, la santé mentale de façon générale en entreprise, etc., je me dis, oui, ça avance pas aussi vite que je le souhaiterais. Donc, en 2050, j'espère que dans les entreprises, la question de la santé mentale, de manière générale, dépression et autres, et des risques psychosociaux, elle sera vraiment clairement prise en charge. Ça fera partie comme adapter des bureaux aux personnalités à mobilité réduite, etc. Ça fera pleinement partie du travail, comme un risque potentiel qu'on va essayer de prévenir, comme on le fait aussi sur les risques physiques dans certains secteurs. Donc pour moi, en 2050, il sera largement temps, parce que moi, ça fait quand même plus de 20 ans que Christophe Dejour m'a prodigué ses bons conseils et ses bons enseignements. Donc j'espère que en 2050, on aura vraiment mis en place ce qui a été déjà pensé à la fin du siècle dernier.
Il serait temps. Pour terminer ce podcast, je demande toujours à mon invité de poser une question à mon invité suivant. Donc tu vas écouter la question de Maxime Runiuski qui était venu nous parler de sexisme au travail dans l'épisode 18 de Good Job.
Avez-vous déjà été témoin de sexisme au travail et avez-vous su comment réagir ?
Alors oui. Alors moi, je suis une femme. Non seulement j'en ai été témoin, mais j'en ai été victime. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui vient fortement me chercher dans les questions de sexisme, de discrimination en tout genre. Donc, et j'ai du répondant. Donc, dans ces cas-là, j'ai tendance à renvoyer une blague qui est à la fois blague, mais t'avise pas à me redire quelque chose. Donc, à ne pas me laisser faire et à mettre très fortement les limites. Et en général, j'ai eu cette chance-là. Ce n'est pas la chance de tout le monde. Je ne dis pas que c'est la recette miracle. En tout cas, moi, ça a marché pour moi. Je n'ai pas reçu d'autres remarques de cette personne.
Ça a mis fin.
Oui, clairement.
Je vais te faire travailler un petit peu.
Oui.
Quelle question tu aurais envie de poser sur ton sujet à toi du burn-out à mon prochain invité ?
Moi, la question que je vais poser, parce que je pense qu'on a tous été un jour, ou on sera tous un jour, victimes de burn-out. Donc, j'aimerais savoir si ton prochain invité a déjà souffert d'un burn-out ou de plusieurs, ce qui voudrait dire qu'il n'a pas tiré les leçons du premier, et comment il s'en est sorti.
Je ne manquerai pas de lui demander. Merci beaucoup Isabelle.
Merci Fabienne.
Et j'espère que ce podcast aura été utile et que chacun pourra prendre le temps de s'écouter puis de faire le point justement sur sa relation au travail pour éviter le burn-out. Merci, très bonne journée, à bientôt.
Merci à toi.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. Ooh.